franceinter.fr.
La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. Savez-vous qui sera élu président de la République en mai 2017 ? Vous êtes silencieuse, Patricia. Bien sûr, vous ne le savez pas, l'élection a lieu dans un an et même en se basant sur d'hypothétiques sondages, il est impossible à cette heure de prévoir le résultat. Mais pourtant, elle sait. Elle, c'est Rodica Gheorghe, une sorcière de Roumanie, à qui l'Express a présenté 5 photos de candidats potentiels ou bien déclarés. François Hollande, Alain Juppé, Marine Le Pen, Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. Et c'est après avoir cherché la réponse dans son jeu de tarot que la sorcière a répondu « Le vainqueur, ce sera Nicolas Sarkozy ». Pas donc François Hollande, il a des qualités mais il n'a pas confiance en lui, selon la cartomancienne. Pas davantage Alain Juppé, Manuel Valls ou Marine Le Pen, cette femme, elle a le diable en elle, si l'on en croit Rodica, diseuse de bonne aventure, qui fait payer 35 euros chacune de ses prédictions, 35 euros pour avoir le nom du prochain locataire de l'Élysée. On dira que ce n'est pas très cher payé, même si l'on peut douter d'une telle prophétie. Mais dans son pays, il arrive que les consultations soient nettement plus chères. Une star de la télé a ainsi déboursé plus de 200 000 euros pour une désenvoûteuse afin de briser le sortilège jeté par sa belle-mère. C'est ce que nous raconte l'envoyé spécial Charles Haquet, qui pour l'Express a enquêté sur ce paradis des sorcières que représente la Roumanie. Là-bas, on ne les brûle pas, non ? On les adule et tout le monde ou presque croit à leur magie. Pour un marivolage, une libellule dans un pot de miel.
Vous avez dit quoi ? Une libellule dans un pot de miel ?
Une libellule dans un pot de miel. Pour des crises d'épilepsie, un cœur de pigeon à manger un soir de pleine lune. Saignant, le cœur de pigeon. Pour une dépression, du métal à souder jeté dans un bol d'eau. Le sujet pourrait évidemment prêter à rire, mais en Roumanie, l'affaire est très sérieuse. Selon une récente enquête, 40% des habitants de Bucarest auraient ainsi recours au service d'une sorcière et tous les milieux sont touchés, y compris le milieu politique. D'ailleurs, la mère de Rodica était la sorcière personnelle d'Elena Ceausescu, sinistre femme de dictateur. Le phénomène est tel et le marché si juteux que les services fiscaux ont d'ailleurs très officiellement décidé de reconnaître leur activité comme un métier à part entière, classé parmi les services à la personne. Voilà ce que dit l'intitulé « Sorcière, travailleur décrivant le passé et prévoyant les événements futurs ». Si l'on en croit donc Rodica, la sorcière roumaine Rodica, Nicolas Sarkozy sera notre prochain président de la République. Nicolas Sarkozy, patron d'un parti dont les élus avancent aujourd'hui en ordre dispersé sur les questions de sécurité, dispersé, mais avec une sérieuse tendance à la surenchère.
D'où la question que pose ce matin le Parisien, jusqu'où ira la droite ?
Et le journal de lister les différentes propositions des élus, les Républicains entendus ces tout derniers jours, ainsi le nouveau patron de la région PACA, Christian Estrosi. Sa solution ? Pour endiguer l'afflux de migrants en Europe, couler les bateaux des passeurs dans les ports. Enfin, quand ils sont vides, a-t-il cru bon de préciser ? Couler les bateaux et faire appel en prime à nos forces spéciales pour aller crever les zodiacs qui servent pour la traversée de la Méditerranée. De son côté, le député de l'Oise, Olivier Dassault, Olivier fils de Serge, n'a dans le même temps pas hésité à relancer le débat sur la peine de mort. Et ceci pour les auteurs d'actes terroristes. Revenir sur l'abolition de la peine de mort, le sujet était jusque-là l'apanage quasi exclusif du Front National. Mais ces propos font écho à ceux de Xavier Bertrand qui, jeudi, assurait qu'il n'aurait pas voté l'abolition s'il avait été parlementaire en 1981. De son côté, Laurent Wauquiez a ressorti de son chapeau l'idée d'un internement de tous les fichiers S et de tous ceux qui reviennent du djihad, proposition que semble d'ailleurs préconiser également Bruno Le Maire, une surenchère qui agace, y compris dans les rangs du parti. Patrick Devedjian dénonce l'hystérie sécuritaire qui pour lui a gagné la droite. Un de ses collègues ajoute « Aujourd'hui, le déconomètre fonctionne à plein tube ».
Mais que faire face aux terroristes ? On retrouve ce matin la question dans tous les journaux, Frédéric.
Et sous des angles assez différents, l'angle de l'enquête tout d'abord. Une dizaine d'arrestations en France et en Belgique ces dernières 48 heures. Arrestations mettant au jour une vaste nébuleuse franco-belge derrière les attentats du 13 novembre et ceux du 22 mars. Paris-Bruxelles, un réseau djihadiste tentaculaire, titre ce matin Le Figaro, qui précise qu'au fil des semaines, les enquêteurs dévoilent les contours d'une conspiration plus étoffée encore que celle qui a frappé New York en 2001. Alors que les pirates du 11 septembre étaient 19, Plus d'une trentaine de personnes ont déjà été identifiées à ce jour dans les seuls attentats de Paris, comme l'a rappelé Manuel Valls. Pour sa part, Le Monde, daté de ce matin, révèle le contenu des premières auditions de Salah Abdeslam, lequel n'aurait été interrogé que 2 heures depuis son interpellation, et lequel, pour l'instant, n'aurait cessé de mentir, minimisant son rôle et rejetant toute la responsabilité des tueries de novembre sur son frère et sur Abdelhamid Abaoud, qu'il dit d'ailleurs à peine connaître. Le Monde, dont le supplément idée est consacré à l'aspect plus psychologique. Comment résister, se demande le journal. Comment faire face à la terreur? Le quotidien a interrogé des artistes, des écrivains et des intellectuels. Résister, c'est non seulement combattre un terrorisme qui tente de détruire la démocratie, mais c'est aussi lutter contre les dérives de l'état de droit, explique la juriste Mireille Delmas-Marty. Résister, c'est se rassembler, faire de la politique ensemble, sur tous les fronts, tous les jours, et sans délégation, répond le cinéaste Robert Guédiguian. Résister, c'est espérer, dit quant à lui le médecin biologiste et homme de radio Jean-Claude Amezen, qui cite Victor Hugo dans sa lettre aux membres du Congrès de la paix. Une haine immense emplit l'avenir, mais il faut espérer. Et jamais le mot « paix » n'a pu être plus utilement prononcé qu'aujourd'hui. La paix, c'est l'inévitable but. Mais l'écrivain Boualem Sansal se fait pour sa part beaucoup plus pragmatique, appelant même à bannir du langage ce mot « résister ». Parce que, écrit-il, « résister », c'est donner l'avantage à l'ennemi. C'est lui offrir l'honneur de porter le dernier coup. C'est capituler, c'est mourir. Non, dit-il, au stade où en est l'affaire, le seul mot valable, c'est l'attaque. Et la presse se fait écho de l'attaque, des attaques sur le groupe État islamique dont les troupes sont désormais acculées à Palmyre et plus que jamais sous pression. Dans la ville de Mossoul, Libération résume la question et la situation avec cette question à la une. Daesh perd-il du terrain? En l'occurrence, la réponse est oui.
Oui, le quotidien dans lequel vous avez par ailleurs relevé différentes infos qui devraient faire parler.
Information économique d'abord. Le PDG de PSA a décidé de doubler son salaire. Patron, glouton, avec ses 2 700 000 euros en 2014, Carlos Tavares pouvait jalouser Carlos Ghosn, le patron de Renault et Nissan, qui touche grosso modo 15 millions d'euros. Mais voilà que Tavares a réussi à se faire augmenter jusqu'à doubler sa rémunération, 5 200 000 euros. Est-ce bien justifié? On peut se poser la question. Une info policière ensuite, avec les informations du site Mediacart. Mediapart dont se fait l'écho Libération, selon de nouveaux éléments révélés par Mediapart. Le militant écologiste Rémi Fraisse, tué en octobre 2014 sur le site contesté du barrage de Sivens dans le Tarn, était en position de défense quand il a été tué par une grenade tirée par un gendarme. Il levait les mains. Et il criait « Arrêtez !» aux forces de l'ordre. C'est ce qu'ont confirmé des témoins. Le militant de 21 ans était pacifiste et il n'avait pas jeté de pierre dans la nuit du 25 au 26 octobre où s'affrontaient les zadistes et les forces de l'ordre, expliquent ces témoins. C'est à lire sur le site Mediapart. Enfin, on peut terminer avec ce titre à la une 2 du Parisien. Un ami à vous peut-être, Cyril Hanouna. Enquête
vous
sur le personnage
moi,
le plus médiatique du moment. Il présente Touche pas à mon poste sur la chaîne D8. Il fait un carton. Il réunit plus d'1 600 000 téléspectateurs. Mais beaucoup l'accusent d'abrutir les téléspectateurs. Beaucoup l'accusent également de faire pression sur tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Beaucoup l'accusent d'être un idiot qui rend idiot ceux qui les regardent. Alors est-il vraiment si terrible, se demande le Parisien. Votre réponse, Patricia?
Mais moi, je ne sais pas, je ne connais pas le sujet.
J'ai rencontré une sorcière, elle m'a dit qu'il était terrifiant.